franceinter.fr.
Bonjour. Tous les grands singes, gorilles, orang-outans, chimpanzés, nous fascinent parce qu'ils nous ressemblent. Celui qui nous ressemble le plus, celui en tout cas dont nous sommes génétiquement les plus proches, c'est le chimpanzé. Mais comme tous les grands singes, ce dernier n'échappe pas à la pression humaine. En Afrique, en Asie, nous détruisons peu à peu les grandes forêts tropicales où ils vivent et les populations sauvages de ces grands primates diminuent. À l'occasion de l'exposition sur la piste des grands singes, qui ouvrira mercredi prochain et se tiendra jusqu'en mars 2016 au Jardin des Plantes à Paris, nous diffusons ce matin un reportage sur le travail de l'équipe de la primatologue Sabrina Krief auprès des chimpanzés en Ouganda. Vétérinaire et maître de conférences au Muséum d'Histoire Naturelle, Sabrina Krief étudie depuis 18 ans les chimpanzés sauvages dans le parc de Kibale. Après avoir mis en évidence les grandes capacités d'automédication de cette espèce, capable de choisir des plantes précises de la forêt pour se soigner, elle cherche maintenant à mesurer l'impact des activités humaines sur la vie de ces chimpanzés. D'une superficie de 25 hectares, située dans un cul-de-sac, le parc de Kibale est un lieu idéal pour étudier la cohabitation entre les singes et leurs cousins humains. Le muséum a d'ailleurs décidé d'y ouvrir une station biologique permanente, unique en Afrique de l'Est, ce qui permettra aux chercheurs de poursuivre en continu leurs études. Mieux comprendre ces grands singes, mieux les protéger, c'est peut-être aussi mieux nous comprendre et mieux nous protéger nous-mêmes, même si, comme vous allez l'entendre, les relations entre le chimpanzé et l'homme ne sont pas toujours faciles. Homme et chimpanzé, comment cohabiter? C'est un reportage de Sophie Bécherel.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous voilà à Sébitoli, dans le parc de Kibale. On est à 4 heures de route à l'ouest de Kampala, pas très loin de la frontière du Congo. Et on est ici dans un parc naturel où Sabrina Krief a donc identifié le groupe de chimpanzés qu'elle étudie depuis maintenant 5 ans. Il est 5h30 du matin et on s'apprête à partir pour aller justement retrouver les chimpanzés qui devraient normalement se lever. Il fait encore nuit. Beaucoup d'étoiles dans le ciel et une lune très claire.
Allez, on est parti.
Allez, à tout à l'heure.
Ouais.
Donc là, on se dirige vers où, Sabrina ?
Bah là, on va traverser la route pour aller au nord du domaine vital, où hier soir, on a entendu les cris des chimpanzés. Donc on va essayer de les retrouver à partir des nids. Et puis on a un grand ficus d'Awei dans lequel les chimpanzés ont été vus plusieurs jours la semaine précédente. Donc on a de fortes chances, comme c'est un grand arbre et que les fruits sont encore assez jeunes, de trouver quelques individus.
Dans la plupart des cas, quand nous suivons une piste, nous regardons comment les herbes sont couchées. Ici, elles indiquent que les chimpanzés se sont déplacés du sud vers le nord. On voit bien que les herbes sont couchées dans cette direction.
Donc là, Japan a montré une petite plante par terre. Il faut vraiment avoir l'œil pour savoir que c'est un reste de repas de chimpanzé. Et l'orientation de la feuille qui lui permet du coup de suivre leurs traces dans le bon sens.
Japan, est-ce qu'ils dorment dans le même nid toutes les nuits ?
Non, en fait, ils font beaucoup de nids. Ils se déplacent, ils bougent sans cesse pour chercher de la nourriture.
Ça, c'est une trace fraîche.
Oui, une empreinte de pied qui vient d'être faite. Donc ça, c'est un pied droit. On voit bien le pouce opposé.
La main.
Et la main avec les trois phalanges. Donc ils sont devant nous.
Nous sommes en novembre, le ciel nous offre un répit. Il ne pleut pas et comme chaque matin, Sabrina Krief et ses quatre assistants ougandais cherchent à repérer la communauté de chimpanzés qu'ils étudient. Il y a environ 80 individus, mais qui, c'est le propre de cette espèce, ne passent pas leur journée ensemble. Il y a des sous-groupes qui se forment, très labiles, jamais identiques, en raison des liens hiérarchiques, des liens familiaux, des affinités aussi. Du lever au coucher, cela fait 5 ans maintenant que l'étude de cette communauté-là a commencé.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, pourquoi ?
On vient d'entendre les vocalisations des chimpanzés, donc a priori, on n'est pas très loin du but. Il est encore tôt, donc on va réussir a priori à les trouver.
C'est un travail d'observation à distance, chaque jour renouvelé, chaque jour différent, pour noter des comportements et tenter de les comprendre. En fait, les scientifiques se répartissent sur les 25 km² de la forêt, à l'affût des indices visuels et sonores. Là, on est dans ce qu'on pourrait appeler les sous-bois. Le chemin est visible, mais très encombré. Quoi correspondent leurs cris, là ?
Voilà, ils sont dans un arbre avec des fruits. C'est le matin, ils viennent de se réveiller. Donc ça, c'est des cris d'excitation parce que l'arbre est plein de fruits. Et donc, ils sont tout contents de trouver un bon repas dès le matin.
Ils sont nombreux ?
Oui, là, on a un bon nombre de chimpanzés. Et en plus, on a un autre groupe qui arrive au sol et qui répond. Là, on entend des individus qui sont à la fois dans l'arbre déjà en train de commencer à s'alimenter et d'autres qui sont en train de se déplacer au sol et qui arrivent au pied de l'arbre. Jour en fait, il est 6h40, donc c'est pas encore évident de savoir qui est présent, mais on a déjà une bonne quinzaine d'individus a priori, puisqu'on voit les silhouettes dans l'arbre. Par contre, une chose est sûre, Elliot est là.
Vous le voyez aux jumelles ?
Oui, il est à mi-hauteur dans l'arbre, il est déjà en train de manger.
Donc le mâle dominant.
Oui, mal à ça. Donc là, Albert, c'est celui qui a le bras accroché à la branche, le bras en l'air.
Et devant, c'est qui ?
Devant, c'est Neptune. Donc quand un chimpanzé lève le bras comme ça en se grattant, c'est en quelque sorte une demande d'épouillage. Et ils utilisent souvent cette méthode de tenir une branche pour pouvoir laisser accès aux aisselles. Et dans les communautés où ils pratiquent ça, ils pratiquent la poignée de main au-dessus de la tête. Et donc au lieu de tenir une branche, ils se tiennent mutuellement la main, ce qui permet de s'épouiller mutuellement les aisselles.
Mais ça, c'est culturel, tous ne le font pas,
c'est ça ? Mmh. C'est un comportement qui n'existe pas dans toutes les communautés de chimpanzés et qui est pratiqué ici, à Sébitoli, à Kanyawara aussi. Donc là, ce matin, nous, on a été au nid d'un petit sous-groupe. On a compté 10 nids frais de cette nuit.
C'est donc, comment un nid ?
Un nid, c'est un ensemble de branches qui sont entremêlées pour former une plateforme. Et donc là, les nids qu'on a vus étaient relativement bas, environ 5-6 mètres. Donc le plus souvent, ils prennent des branches qui sont relativement flexibles et assez solides pour pouvoir supporter leur poids, puisqu'ils peuvent faire jusqu'à 50-60 kilos. Et donc la taille du nid nous informe sur l'individu qui l'a construit. Donc une mère avec son petit va dormir avec son petit, mais sinon c'est toujours un nid par individu adulte. Donc les chimpanzés construisent les nids le soir, ils ne réutilisent jamais les mêmes nids. Et pour déterminer si le nid est frais, on regarde en dessous s'il y a des urines et des selles. Donc ils vont persister au maximum 2 jours. Et donc en fonction de ça, on peut déterminer si le nid est très frais. Et les nids sont une méthode de recensement pour connaître la densité de chimpanzés dans une zone. Donc ce matin, on a trouvé plusieurs crottes avec à l'intérieur des graines de figues qui nous indiquent que le régime alimentaire est vraiment composé essentiellement de figues en ce moment. Puis on a trouvé des restes alimentaires de végétation terrestre, herbacées, donc des tiges d'Aframomum qui sont des gingembres sauvages. Donc avant d'arriver jusqu'à cet arbre avec les figues, les chimpanzés ont mangé quelques tiges bien fraîches, juteuses. Puis généralement, quand les heures de la journée sont trop chaudes, les chimpanzés vont descendre des arbres pour se reposer au sol et puis aussi manger d'autres tiges. Donc le plus souvent, des tiges de poivre sauvage, des tiges de ce qu'on appelle les herbes à éléphants, Penicetum. Ils peuvent aussi manger des fruits qui sont les fruits d'Aframomum aussi, qui sont aussi utilisés par les populations humaines locales comme vermifuges. Voilà, donc en général, dans une journée, un chimpanzé mange au moins une dizaine d'espèces différentes et le régime alimentaire d'une communauté peut être composé de plusieurs centaines d'aliments. À Kanyawara, sur une dizaine d'années, j'ai compté plus de 320 aliments différents. Donc un régime vraiment diversifié.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on entend au loin la route, ce qui montre qu'on est très près de la présence humaine et ce qui explique d'ailleurs votre présence ici.
Oui, on entend à la fois la route, parfois l'usine de thé et ses générateurs. Et puis là, il y a quelques minutes, on entendait aussi les chiens aboyer. L'arbre là se trouve à environ 400 mètres de la bordure du parc, vraiment à l'angle entre la route et la bordure du parc. Et la raison pour laquelle on travaille ici, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment les chimpanzés s'adaptent à un habitat aussi anthropisé. Et de voir si notre objectif initial était de voir s'ils évitaient les bordures du parc et se concentraient dans les zones centrales. Et là, rien que la journée de ce matin montre que c'est pas du tout le cas. En fait, cette zone, c'est vraiment un concentré de toutes les menaces. On est sur un endroit qui fait 20-25 km² et pratiquement tout ce qui peut peser comme menace sur les grands singes et sur les chimpanzés en particulier se trouve ici. On a la brume qui se lève. Tout à l'heure, il faisait nuit, mais maintenant, on a le voile de brouillard. Arrivés à Sibitoli, les chimpanzés étaient complètement sauvages, c'est-à-dire qu'ils voyaient des humains de temps en temps, évidemment lorsqu'ils allaient piller ou lorsqu'ils traversaient la route, mais jamais personne qui leur prêtait véritablement attention et qui restait à braquer des jumelles sur eux. Et donc nous, quand on est arrivés, les chimpanzés, à 80 mètres, ils étaient capables de nous détecter, ils dégringolaient des arbres à toute vitesse et on les voyait seulement quelques secondes. Donc c'est vraiment très très laborieux comme méthode, puisqu'on ne doit pas utiliser d'alimentation pour les appâter, pour les attirer, et bien sûr n'avoir aucun contact avec eux. Donc il s'agit vraiment petit à petit de se rapprocher des arbres dans lesquels on arrive à les voir. Donc de passer de 80 mètres à 50 mètres à 20 mètres. Et puis l'étape ensuite qui est aussi relativement difficile et qui est aujourd'hui au cœur de notre travail, c'est de réussir à les suivre au sol. Parce que quand les chimpanzés marchent au sol et qu'on les suit, on est dans leur dos. Et donc on représente vraiment un danger puisqu'ils ne peuvent pas nous regarder en même temps. Alors que quand ils sont dans les arbres, ils se sentent en sécurité et ils arrivent vraiment à surveiller tous nos mouvements. Donc l'étape de suivi au sol à une dizaine de mètres, c'est quelque chose qui est aussi difficile.
Et au bout de 5 ans, toujours pas ?
Au bout de 5 ans, on arrive à peu près à les avoir à une distance de 15-20 mètres. Mais le problème, c'est que la végétation est très dense et que quand ils sont au repos, assis au sol, on peut être à 15-20 mètres d'eux. On essaye de suivre leur progression en suivant leurs traces, mais bien souvent, on ne les voit pas. Donc on peut pas encore vraiment les observer quand ils sont au sol.
Donc en gros, une habituation, c'est une dizaine d'années ?
Ouais, dans la majeure partie des cas, il faut compter une dizaine d'années avant d'avoir l'ensemble d'une communauté bien habituée. Et on voit pas tous les individus à la même fréquence. Donc certains qui vont avoir une zone de résidence qu'on a bien identifiée, qui est relativement proche peut-être de notre station, on va les voir souvent. Et donc eux vont acquérir une confiance en nous. Par contre, d'autres qui vivent beaucoup plus en périphérie et pour lesquels ça nous est plus difficile de les rencontrer, eux vont garder une crainte importante. Donc on n'a pas un même niveau d'habituation pour tous les chimpanzés en même temps. Les plus faciles à habituer sont les mâles adultes, qui sont a priori plus prêts à prendre des risques que les femelles, que les mères qui ont des petits. On a encore certaines mères qui, quand elles nous voient et surtout quand il n'y a pas des mâles avec elles, sont en panique totale et donc quittent l'arbre à toute vitesse dans un fracas de branches, en ayant la diarrhée. Enfin, on voit vraiment que pour l'instant, on les perturbe encore.
Yes. Protein PRO négative. Urobilinogène UO 0.2. Nitrite, it's a bit pink, you see, purple.
Yes.
It's not completely white.
Mm-hmm.
So positive.
Is it positive?
Yes, positive.
Alors, je m'appelle Marie Cibot, je suis docteur vétérinaire de formation et à la fin de mes études, après mon doctorat, j'ai décidé de refaire un doctorat, mais cette fois-ci universitaire, en primatologie. En fait, je m'intéresse aux interactions entre les humains qui vivent autour du parc et les chimpanzés dans la forêt, mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les conséquences de ces interactions sur la santé des chimpanzés. Par exemple, je regarde tout ce qui est transmission de maladies, et notamment transmission de maladies parasitaires, donc les parasites digestifs en particulier. Et une autre partie de mon travail est aussi, en fait, donc les villageois et les braconniers, hein, qui sont des villageois, peuvent poser des pièges dans la forêt, donc qui sont pas destinés aux chimpanzés, hein, parce que les habitants ici ne consomment pas de viande de chimpanzés, mais par contre, c'est pour les antilopes, les cochons sauvages. Les chimpanzés, par contre, sont des victimes indirectes de ces pièges, donc ils vont être attrapés dans ces pièges, donc ils vont garder des câbles de vélo qui les collaient pendant des mois, voire des années, et au bout d'un moment, ils vont perdre par nécrose des parties de membres. Donc voilà, donc 30% des individus dans la communauté de Cibitoli sont touchés par le braconnage et ont donc des déformations des membres, des amputations. Voilà.
Vous visez 1000 observations, ce qui est tout à fait énorme. Enfin, en tout cas, vous passez beaucoup de temps à observer ces chimpanzés. Est-ce que vous avez déjà des premières indications ?
Les premiers résultats en termes de parasitologie digestive, en fait, je me suis intéressée plus particulièrement à une espèce de parasite qui est un nématode digestif. Ce parasite-là, Œsophagostomum stephanostomum, qui n'avait jamais été décrit, cette espèce-là, chez les humains, est aussi présente chez certains humains à Cibitoli. Et ces personnes-là sont des personnes qui vivent tout près de la forêt, qui ont des champs en bordure de forêt et qui ont l'habitude de voir des chimpanzés venir dans leurs champs pour piller et pour manger le maïs.
Ça indiquerait qu'en fait, ils ont été contaminés par les grands singes.
Voilà, c'est ça. Mais là, j'ai trouvé une transmission probablement des chimpanzés vers les humains, mais on peut complètement imaginer le contraire et tout reste à investiguer, enfin, dans l'autre sens aussi.
Mais concrètement, de quelle manière, puisque ces humains ne touchent pas ces grands singes ?
Alors, on peut s'infester par contamination orofécale. Donc, les chimpanzés vont déféquer dans les champs des gens quand ils viennent pour manger le maïs. Et les gens vont, par la maladie des mains sales,
en récoltant les
aliments, sachant que les gens, la plupart du temps aussi les enfants, consomment les restes alimentaires laissés par les chimpanzés ou les autres animaux après un pillage.
Donc tout ça, c'est des épis de maïs à moitié grignotés ne vont pas être jetés.
Voilà.
Et sur la partie membres manquants, enfin malformation, qu'est-ce que vous avez déjà pu observer ? Est-ce que ça ralentit énormément l'activité d'un chimpanzé ?
Alors là, vraiment, c'est des résultats préliminaires qui restent à confirmer. Mais ce que j'ai déjà pu entrevoir, c'est que finalement, les chimpanzés mutilés vont passer moins de temps à se reposer. Et donc, au contraire, passer plus de temps dans toutes les autres activités, et notamment l'alimentation. Donc finalement, des chimpanzés auxquels il manque des doigts, voire des mains entières, des avant-bras, prennent plus de temps à se nourrir et ont moins de temps pour se reposer. Ce qui peut entraîner des problèmes, hein, parce qu'on sait que le temps de repos est très important chez tous les animaux, notamment pour la thermorégulation. Donc voilà. Ensuite, au niveau social, je n'ai pas observé d'entraide ou de comportement protecteur à proprement dit envers les chimpanzés mutilés. Par contre, ils sont vraiment pas mis à l'écart. Ils vivent dans des groupes normaux. Ils sont bien intégrés.
On a observé, maintenant qu'on connaît un plus grand nombre d'individus, qu'on les a bien identifiés, qu'ils ont aussi des malformations faciales. Donc, par exemple, des narines très réduites, une face très très plate, et on a aussi un individu qui a un bec de lièvre. Et donc ça, on n'a pas encore identifié clairement l'étiologie, donc la cause, l'origine, mais on a plusieurs pistes pour expliquer l'origine de ces malformations faciales. La consanguinité peut en être une, puisque en fait, la zone de Sébitoli est à l'extrême nord du parc de Kibale, entourée donc de présence humaine, sans corridor permettant de rejoindre d'autres poches de forêt. Et la route nationale coupe malgré tout le parc et forme une barrière, même si elle n'est pas infranchissable. Donc la consanguinité est la première piste. Une seconde piste serait la pollution environnementale due aux intrants chimiques, aux pesticides, aux herbicides qui pourraient être vaporisés sur le thé ou bien sur les maïs que consomment les chimpanzés. Et enfin, on a une troisième hypothèse qui serait une contamination encore plus directe de l'environnement, puisque dans la zone de Sébitoli, il y a eu une déforestation importante avec 50% des arbres endommagés dans les années 70. Et pour faciliter l'exploitation commerciale du bois, les forestiers ont utilisé des arboricides, donc de l'agent orange, qu'ils ont injecté directement dans les espèces qui étaient les moins désirées, donc les ficus en particulier, et qui sont aussi les aliments préférés des chimpanzés.
Un océan vert clair entoure la forêt de Kibale. Ce sont les plantations de thé. Mais ici et là, on voit aussi des îlots d'eucalyptus exploités pour le bois et des petits jardins. Ce sont des champs familiaux où on fait pousser des haricots rouges, des bananes ou du maïs. Le niveau de vie est ici dérisoire. La pression démographique est forte pour une zone rurale, c'est-à-dire 300 habitants par kilomètre carré. C'est une zone d'étude par excellence pour comprendre la cohabitation des hommes avec la faune sauvage. Et nous allons à la rencontre du maire du village.
In Je m'appelle Eyowereka Boubara et je suis le chef de ce village qui compte environ 200 familles.
Et donc vous vivez vraiment à la lisière de la forêt, est-ce que ça crée des problèmes ?
Oui, les animaux viennent piller les champs, les chimpanzés, les babouins qui eux viennent tous les jours et de temps en temps des éléphants. Les éléphants et les babouins mangent absolument toutes les plantes que nous cultivons. Les chimpanzés, eux, ne mangent que la canne à sucre et le maïs.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les en empêcher ?
Il faut que nous surveillions nos champs, de jour comme de nuit. Parce que les éléphants viennent la nuit, mais les babouins viennent le jour. Il faut que nous soyons tout le temps présents. Le jour pour chasser les babouins, la nuit pour chasser les éléphants. Le gouvernement nous a donné de l'argent pour creuser des tranchées de protection autour de certains champs. Mais le problème, c'est que nous avons aussi des champs dans des zones humides où on ne peut pas creuser de tranchées. Alors, les animaux peuvent venir piller ces champs-là. Les conséquences sont très importantes pour nous, car nos revenus sont très faibles. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans de bonnes écoles, acheter des médicaments quand nous en avons besoin.
Qu'est-ce que vous voudriez pour résoudre ce problème ? Qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous ?
Une véritable solution, ce n'est pas possible. Il faudrait que le gouvernement dédommage nos pertes, mais il n'en a pas les moyens. Ça me rend triste. Les gens ici se demandent comment faire, et je ne sais pas quoi leur dire.
Peut-être que la forêt est trop petite, non ? Trop petite par rapport au nombre d'animaux sauvages ?
Non, vous savez, les animaux, ils ont besoin de se déplacer. Ils ne connaissent pas les frontières. Ils ne savent pas rester à un endroit qui leur est réservé. Vous ne pouvez pas les empêcher de bouger. Peut-être que ça irait mieux si on pouvait installer des barrières le long des tranchées pour qu'ils ne puissent pas passer par-dessus.
Où est-ce qu'on se dirige, Marie ?
Donc là, on va tout au bord de la forêt, dans un champ qui appartient à un monsieur qui s'appelle Sunday. Il a du maïs dans son champ et il est vraiment habitué à voir les chimpanzés venir piller son maïs. Donc nous, ça nous intéresse. On va poser un piège caméra juste à la bordure entre la forêt et son champ de maïs pour essayer d'obtenir des images des chimpanzés venant piller son champ. C'est un moyen aussi d'appuyer auprès des autorités locales et des autorités nationales comme l'OUA de la nécessité aujourd'hui de trouver des solutions alternatives pour les villageois pour moins souffrir du pillage.
Oui, parce qu'on vient d'entendre le témoignage de Joël, c'est évidemment éclairant.
Oui, ils sont vraiment tous unanimes, hein, les villageois. C'est vraiment terrible pour eux, quoi. C'est pas facile. Mais donc là, on est exactement à la tranchée qui descend à 2 mètres de profondeur juste ici. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dedans. Et il y a un arbre, c'est ça qu'on recherche quand on pose nos caméras. C'est d'avoir un lieu où on imagine que les chimpanzés vont passer plus fréquemment qu'à d'autres endroits. Certes, ils peuvent probablement sauter la tranchée, mais s'il y a un arbre qui fait un pont entre la forêt et la culture et qui passe la tranchée, qui fait 2 mètres de profondeur, ils préféreront emprunter ce chemin-là. Donc là, c'est ce qu'on fait. Il y a vraiment un tronc d'arbre qui fait la jonction et je vais poser la caméra juste en face pour espérer... Oh non, les avoir. I have to check. Okay. It's okay, Sunday. I think it will work like this. On essaye de se comprendre parce que Sunday ne parle pas très bien. Moi, pas très bien au taureau.
Ce dont on s'est aperçu, c'est que les chimpanzés, à partir du moment où le maïs est mûr et assez proche de la bordure de la forêt, vont aller le consommer, même s'il y a des arbres alimentaires qui sont riches en fruits. Pratiquement tous les individus de la communauté qu'on connaît vont piller, que ce soit les mâles adultes, les femelles adultes, les mères avec leurs petits, et même les individus mutilés, tous vont, de jour comme de nuit, piller les maïs. Donc ça, c'est une découverte très importante qu'on a faite, puisque jusqu'à présent, les chimpanzés n'avaient jamais été décrits comme une espèce nocturne. Donc toutes leurs activités sont diurnes. Et là, grâce aux pièges caméras qu'on a posés à des endroits précis, on s'est rendu compte que les chimpanzés, même pendant une nuit qui est noire, sans pleine lune, vont prélever des épis de maïs dans les champs des villageois.
Alors qu'ils ont à peu près le même œil que nous, ils n'ont pas une vision nocturne.
Ils n'ont aucune adaptation physiologique a priori à la vision nocturne. Probablement n'ayant plus peur de se déplacer au sol, ils ont commencé à piller pendant les nuits de pleine lune, puis petit à petit se sont habitués à ces pillages nocturnes. Et comme les champs sont ouverts, donc la couverture forestière est pas très importante, ça donne aussi plus de clarté et donc peut-être ça a facilité leur adaptation au pillage nocturne.
Nutritivement, ça a un intérêt pour eux de manger du maïs ?
La valeur nutritive des épis de maïs est considérable par rapport aux fruits sauvages. Avec environ 6 épis de maïs, ils couvrent largement leurs besoins nutritionnels de la journée. Et en moyenne, quand on regarde ce que les chimpanzés rapportent sur les images des pièces vidéo, ils ont un nombre important, parfois les bras chargés de 6 épis de maïs. Donc pour eux, c'est un apport nutritif très important qui explique que ce soit très attractif et qui prennent le risque d'aller piller. Les risques sont très importants. Les villageois ne vont pas tuer les chimpanzés pour les manger, mais pour protéger leur culture. Évidemment, ils sont prêts à se défendre. Ils vont soit utiliser des lances, soit utiliser leurs chiens, soit lancer des pierres, et parfois poser des pièges qui sont posés en bordure de la forêt. Et même si le chimpanzé se fait prendre dans le piège et que donc ils arrivent à attraper le chimpanzé, ils vont le tuer, mais pas le manger. Ils vont donner la viande aux chiens.
Et le chimpanzé ne peut pas apprendre d'un danger, ce nouveau danger, enfin.
Alors, on pense que l'adaptation qu'ils ont mise en place en faisant des pillages nocturnes est un apprentissage vis-à-vis du fait que les villageois gardent leur pré. Et ce qu'on voit vraiment sur les images vidéo, c'est que les chimpanzés vont avoir une vigilance très importante de jour. Par exemple, ils vont monter dans des eucalyptus qui sont en bordure de la forêt pour essayer de faire le guet et vérifier qu'il n'y a pas de villageois qui gardent le pré. On voit aussi qu'ils se mettent en position bipède. On voit qu'ils sont stressés puisque, par exemple, le grattage est beaucoup plus intense. Ils ont des diarrhées. Donc la journée, on voit vraiment des comportements qui montrent leur anxiété et leur perception du risque.
Ils y vont, mais ils ont la trouille.
Voilà, exactement. Et ils vérifient que le danger n'est pas trop important. Par contre, la nuit, tous ces signes d'anxiété sont beaucoup moins importants. Et sur les images vidéo, on les voit beaucoup plus calmes, beaucoup plus relax, traversant lentement dans un sens comme dans l'autre, passant beaucoup plus de temps dans le pré, donc probablement mangeant directement dans le pré, ne prenant même pas la peine de revenir pour manger en bordure de forêt, à l'abri des arbres, dans la végétation. Donc là, ce qu'on veut vraiment essayer de faire à travers ces recherches, c'est à la fois de comprendre comment les chimpanzés s'adaptent, mais bien sûr d'utiliser ces résultats pour ensuite essayer de limiter cette pression et d'essayer d'arranger les conflits qu'il y a entre les humains et les chimpanzés.
La forêt de Kibale, exploitée jusque dans les années 60, est aujourd'hui protégée par le statut de parc national, l'un des 10 que compte l'Ouganda. L'Uganda Wildlife Authority, une agence gouvernementale, veille depuis bientôt 20 ans à maintenir l'équilibre entre sauvegarde des espèces et développement économique. Jusqu'ici, avec succès, souligne la ministre du Tourisme et de la Vie Sauvage, Maria Mutagamba.
Les grands singes sont une des ressources naturelles de l'Ouganda, avec des espèces spécifiques.
Nous avons plus de 50% de la population africaine de chimpanzés. Nous sommes le pays des grands singes. Par ailleurs, c'est l'une des grandes attractions pour l'industrie du tourisme. Ils contribuent beaucoup à attirer des touristes en Ouganda. Le tourisme est la deuxième source de devises étrangères pour le pays. Et dans les 5 à 10 ans à venir, ce sera la source numéro 1, car nous avons encore du potentiel à développer. Les touristes qui viendront ici voudront pour beaucoup voir les grands singes. C'est une grosse contribution à notre croissance. Et puis c'est important pour l'homme, car c'est notre plus proche congénère. Donc c'est important. C'est une espèce qu'on doit étudier pour le futur. D'où l'importance de la venue de chercheurs qui viennent étudier les comportements des singes et les différences avec le genre humain. Les singes ont une grande valeur et nous voulons les protéger.
Diriez-vous que les conflits hommes-singes deviennent de plus en plus problématiques ?
Oui, à cause de la pression croissante sur la Terre. Notre population augmente et nos frontières sont toujours les mêmes. Nous sommes un peu à l'étroit. Nous sommes passés d'une population de 5 millions dans les années 50 à près de 40 millions aujourd'hui. Ça crée une forte pression sur la Terre. Avec les changements climatiques, il y a également moins de fruits pour les animaux sauvages, ce qui les pousse à venir piller les champs et créer des problèmes avec les villageois. Les conditions météo, les températures changent aussi, en lien avec les changements climatiques. Et cela augmente la nécessité pour les communautés d'apprendre à vivre avec les grands singes. Il faut aussi que les singes apprennent à vivre avec les hommes. Il faut la cohabitation, mais il faut que tout le monde soit impliqué.
Est-ce que les populations rurales acceptent cette politique ?
Oui, si on prend le temps et la peine de leur expliquer. Il faut enseigner comment cohabiter et ils seront capables de les protéger. Mais cela prend du temps. Au départ, ils ne comprennent pas qu'il faut respecter les animaux, mais il faut faire de l'éducation. Et alors, ils finissent par les aimer et les protéger. Si en contrepartie, la protection animale leur apporte des services de protection sanitaire, sociale, l'école, alors ils comprennent. Certaines communautés ont déjà parfaitement compris cela. D'autres ont même déjà créé leur propre ONG pour protéger la faune parce qu'elles savent le bénéfice qu'elles peuvent en tirer. Alors oui, c'est possible. Et nous le ferons.
Après 5 ans d'efforts, le muséum a réussi à convaincre le gouvernement ougandais de l'importance d'une station biologique permanente à Kibale. Elle accueillera des chercheurs et des doctorants, qu'ils soient primatologues, entomologistes ou pharmaciens. Elle proposera aussi un lieu de sensibilisation des jeunes élèves ougandais. Ce jour-là, les autorités locales, le directeur du muséum et les financeurs privés étaient réunis pour la cérémonie d'inauguration.
C'est un chant à la manière traditionnelle qui parle de protection de la nature. Il parle de la forêt, Ils disent qu'elle est bonne, qu'il faut la protéger. C'est ça le message de la chanson. Dans la forêt, il y a des éléphants, des gorilles, des chimpanzés et plein d'autres animaux. Et la chanson répète tout cela. Notre forêt est bonne, protégeons-la, protégeons-la tous. Merci. Je m'appelle Denis Agava. Et je suis l'animateur d'une équipe de jeunes ambassadeurs des grands singes. Ces jeunes ont chanté une chanson à la façon traditionnelle, dans leur langue, pour informer sur la protection de la nature.
C'est important que ce soit les jeunes qui soient les ambassadeurs de la vie sauvage ?
Oui, c'est très important. Et même indispensable aujourd'hui, parce que les adultes ne sont pas conscients de l'importance de préserver la forêt pour l'avenir. Ils veulent juste s'y rendre pour trouver de quoi manger. Mais l'avenir appartient aux jeunes, et s'ils veulent avoir une vie meilleure, il faut préserver la forêt. Il faut préserver les animaux qui y vivent. C'est pour ça que c'est important que ces jeunes soient les ambassadeurs des grands singes. Les singes ne peuvent pas venir s'adresser aux gens et leur demander de protéger la nature. Alors ces jeunes prennent la parole pour les défendre.
L'aspect positif de notre travail, c'est que dès le début, on a l'impression d'avoir limité la pression de braconnage. C'est-à-dire que dès nos premières venues en forêt, on a trouvé des pièges, on a pu les désamorcer et puis on a créé des transectes et on a aujourd'hui une centaine de kilomètres de pistes qui montrent aux braconniers qu'on est là. On a une équipe de 10 personnes qui sillonnent la forêt sans arrêt et aujourd'hui on trouve beaucoup beaucoup moins de pièges que les premiers mois quand on est arrivé. Et déjà aujourd'hui, donc, on a pu obtenir des observations intéressantes qui nous permettent d'imaginer des actions, de la sensibilisation et donc de réduire ce conflit qui existe aujourd'hui entre les chimpanzés et les humains.
Hier, on a donc assisté à l'inauguration de votre nouvelle station de recherche avec toutes les autorités locales et votre partenaire, Louboua. On les sent très tiraillés entre la volonté d'exploiter économiquement ces parcs naturels et l'idée qu'il faut les préserver. Vous sentez ce même tiraillement et une menace éventuelle ?
Effectivement, l'Ouganda Wildlife Authority dépend en fait du ministère du Tourisme et de la Faune Sauvage. Mais donc, il y a forcément une valeur économique qui est attribuée à la faune sauvage et tout particulièrement aux grands singes, puisque c'est assez unique dans le monde de pouvoir observer des chimpanzés et des gorilles.
Nous, en fait, et en Ouganda, il existe des parcs où on va voir justement les chimpanzés et les gorilles déjà.
Oui, donc à Bundi et Mgainga, dans le sud de l'Ouganda, on a la possibilité de pouvoir observer des gorilles, des groupes de gorilles très bien habitués. Et à Kibale, il y a une communauté de chimpanzés qui est habituée pour le tourisme. Donc nous, quand on a signé l'accord de recherche, il est bien stipulé que ce sont des chimpanzés qui seront destinés à la recherche. Mais hier, on a bien senti que le fait que l'habituation se passe plutôt bien, qu'on s'implante, donnait vraiment envie à Loua de développer le tourisme sur le site. C'est pas quelque chose qui est complètement inenvisageable et qu'il faut proscrire, à mon avis, puisque si les gorilles de montagne aujourd'hui sont en augmentation, c'est bien grâce au tourisme. Par contre, il y a vraiment quelque chose à penser d'une façon vraiment à tête reposée et calme. parce que je pense que les touristes peuvent être intéressés pour découvrir la forêt et l'ensemble de sa biodiversité et pas uniquement les chimpanzés. Donc l'idée ne serait de ne pas reproduire ce qui est fait à Kanyanchu, où les touristes en fait viennent pour voir les chimpanzés pendant une heure et repartent immédiatement. Si dans 5 ans l'habituation est bonne, on pourrait envisager des visites qui seraient des visites plutôt sur 2 ou 3 jours avec un très petit nombre de touristes et où on les amènerait non seulement à la rencontre des chimpanzés mais surtout des 11 autres espèces de primates, de la faune, de la flore, éventuellement des éléphants et le centre d'information scientifique qu'on essaye de développer sera à mon avis une bonne base pour ce travail. Donc bien sûr, on essaye de calmer un peu le jeu en disant qu'on ne fera pas un tourisme à grande échelle, mais on a déjà créé des emplois pour la construction de la station, pour le travail d'observation et des chimpanzés et de création des chemins, de maintenance des chemins. Donc je pense qu'ils voient ça avec un peu d'espoir, parce qu'on est dans une zone où les gens sont très pauvres hein, et il y a très peu de sources de revenus autres que l'agriculture, et que cette agriculture est en plus menacée par la faune sauvage.
Hommes et chimpanzés, comment cohabiter? C'était un reportage de Sophie Bécherel. Réalisation Anne Lioro, assistée de Stéphane Combe et Christine Kern. Mixage Pierrick Charles. Je vous rappelle que l'exposition Sur la piste des grands singes ouvrira mercredi et se tiendra jusqu'en mars 2016 au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Dans quelques instants, le journal de 10h. À dimanche prochain.